Oasis interdite par Ella Maillard.
Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien en ce
loin, très loin du 6 avril.
Vous êtes toujours dans l'émission sur les traces d'Ella Maillard vers les Oasis interdites, livre qu'elle écrit à la suite de son périple avec Peter Fleming lorsqu'elle part de Pékin en 1935 pour essayer de rejoindre les Indes. Hier, elle est arrivée à Kerala et elle était justement en train de nous faire un petit point sur l'histoire du Xinjiang. Vous êtes sur Campus Grenoble 90.8. On continue la lecture. Jusqu'en 1928, la province avait été gouvernée par Yang Zhenxin, habile à manier les difficultés qui menaçaient l'autorité chinoise. Mais Yang meurt assassiné dans un banquet à Urumqi, soit par l'un de ses ministres, soit par celui qui devait lui succéder, le fameux Qing Chunyan. C'est le début des troubles. À vrai dire, des difficultés internes aussi bien qu'externes s'étaient déjà fait jour. La population sédentaire ayant augmenté à la suite de plusieurs décades de prospérité, des colons avaient émigré sur les terres des Mongols nomades au nord et comme les paysans sont facilement imposables, ils avaient l'appui du gouverneur. Au contraire, on cessa de payer des subsides aux chefs nomades chargés de maintenir l'ordre. De plus, la propagande communiste s'était affirmée dès 1922, tirant parti des réformes agraires appliquées au Turkestan russe, où la population sédentaire est la même qu'au Xinjiang. Et en 1920 déjà, 4 ans avant de le faire en Chine, les Russes, au Xinjiang, abandonnaient leur privilège d'exterritorialité. Dès 1925, les consulats soviétiques sont rétablis et le commerce russe répand, sous le tsarisme déjà dès 1851, la province a été ouverte au commerce russe par le traité de Kouldja, à tel point que l'argent russe devient bientôt la monnaie d'échange. Et le fonctionnaire chinois font de même de moins en moins de bénéfices sur le trafic des caravanes avec la Chine. À mesure que ces bénéfices diminuent, les taxes augmentent et mécontentement populaire arrive aussi. L'orientation vers la Russie ne fait que s'accentuer et dès 1928, le consul du Xinjiang à Semipalatinsk déclare que sa province obéira à ses propres intérêts et non pas au gouvernement chinois. En 1931, enfin, l'ouverture du chemin de fer Turkestan-Sibérie, sur lequel je circulais en 1932, ne pouvait que renforcer l'importance commerciale de la Russie si proche. Le gouverneur Qing Chunyan, qui avait donc succédé à Yang, signe alors un accord commercial secret avec l'URSS. Qin n'est pas aussi intelligent que son prédécesseur, car en dépit du bon sens, il nomme ses compatriotes du Kensu à tous les postes gouvernementaux, puis il oppresse le peuple comme jamais encore on a osé le faire. Il ferme la province pour empêcher que les nouvelles ne se répandent, et c'est pourquoi il garde prisonnières les expéditions Citroën et Sven Hedin. Mais les événements vont se précipiter. L'interdiction d'importer des armes a été levée en Chine en 1929. Urumqi achète des fusils et bien armé, marche sur Hami, croyant pouvoir établir une administration directe sur cette principauté indépendante dont le prince avait déjà été déposé. Mais à Hami, des Turquis viennent d'être dépossédés de leurs bonnes terres en faveur de paysans chinois échappés du Kensu, et de plus, une femme musulmane a été enlevée par un employé chinois. Cet employé est tué ainsi que les paysans du Kensu, et Hami se soulève en mars 1931. Les troupes gouvernementales occupent la ville dont les habitants turquis s'enfuient dans les montagnes, tandis que leur chef Hoxha Niyaz appelle le général Majuyin à l'aide. Né à Hosho et surnommé Ga Suling, ce jeune général Dungan s'était déjà rendu célèbre au Kensu à 17 ans, lorsqu'avait éclaté la révolte musulmane en 1927, qui fit 200 000 victimes selon les estimations les plus modérées. Ce soulèvement avait éclaté parce que les Dungan, écrasés d'impôts exorbitants par le général chrétien Feng, avaient envoyé pour protester auprès de ce chef une délégation dont tous les membres avaient été fusillés. Le jeune Gasoling, alors colonel, avait été chargé par l'un des mâts de Sining de prendre Hosho, la ville musulmane tombée aux mains du général chrétien. Ayant en vain assiégé cette ville pendant 8 mois, Ma Jiuyin se retire et devient chef de bande au nord du Kansu. À titre de représailles, le gouverneur de la province, une créature de Feng, fait exécuter à Lanshou le père de Ma Jiuyin, attisant dans le cœur de ce dernier la haine des Chinois. Ma n'en va pas moins à Nankin en 1930 chez le chef incontesté du nord de la Chine, le généralissime Chiang Kai-shek, qui le nomme gouverneur militaire de Kanshou. Arrivé dans cette grande oasis au sud du Gobi, Ma enrôle de force la population et crée une armée de 10 000 hommes avec l'aide d'un officier turc de Constantinople, Kemal. C'est alors, en été 1931, que Ma est appelé à l'aide par les Turquies du Nord. Malgré l'obstacle que représente le désert de Gobi, il arrive avec 500 Dungan et met le siège avant Ami pendant 6 mois. Mais c'est en vain. Grâce à un message transmis par l'ingénieur Petro de la mission Citroën, Urumqi envoie des renforts aux assiégés chinois de Ami. Après avoir attaqué 43 fois la ville, Ma abandonne la lutte et retourne au Kansu. Les Dungan continuent à se battre aux côtés des Turquies. Barkoul, puis Turfan, sont prises et enfin Urumqi assiégée en juin 1933. Mais la capitale est bien défendue par un millier de Russes réfugiés qui savent n'avoir rien à gagner sous un gouvernement musulman. Ces Russes sont tellement maltraités par le gouverneur Qin Chuyen qu'ils se révoltent contre lui et le forcent à s'enfuir le 11 avril 1933 par-dessus le mur de son yamen et en chemise, paraît-il. De son propre chef, l'officier Sheng Shui-tse prend le commandement. Ce Chinois, qui a étudié au Japon et fait la guerre de Mandchourie, est très impressionné par la puissance croissante de la Russie. À son tour, il conclut un pacte commercial avec les Soviets, ainsi qu'un emprunt de 5 millions de roubles, or, dit-on, qui doit aider au développement de la province. 500 000 roubles seulement sont versés en espèces, le reste est représenté par des machines, des aéroplanes et des conseillers soviétiques qui vont diriger la politique. L'emprunt sera remboursé peu à peu grâce aux pots de Karakoul et de Brechtvans fournis par la province. C'est peu après qu'un délégué de Nankin arrive à Urumqi malencontreusement pour essayer de rétablir la paix. Il semble n'avoir recouvré la liberté qu'en promettant la reconnaissance officielle de Chang comme gouverneur militaire ou Toupan du Sinang. Mais les musulmans, maîtres cette fois de la route du Xinjiang jusqu'au sud d'Urumqi, appellent une seconde fois Ma Jiuyin à l'aide. Celui-ci laisse le nord du Kansu à la garde de son cousin éloigné, Ma Pufang, et repart. Très ambitieux, il est décidé à rallier tous les musulmans du Touran sous ses ordres. Sa volonté et son courage n'ont d'égo que sa cruauté, et les succès de Genghis Khan, ou même récemment de Tsao Tsongtang, sont pour lui servir d'exemple. Il bat les Russes blancs sans peine devant Urumqi, mais à ce moment-là surgissent 7000 Chinois qui, échappés de la guerre de Mandchourie, puis internés en Sibérie, viennent d'arriver au Xinjiang. Ces nouvelles forces repoussent Ma Jiuyin, qui s'établit à Turfan et recrute parmi les indigènes. Le chef turki Hodja Niaz a déserté Ma pour passer aux côtés de Chen Shih-tse, qui lui a promis le sud de la province. C'est un opportuniste qui encourage tour à tour chacun des généraux ennemis qu'il rencontre. En janvier 1934, un an donc avant que Ella Maillard et Peter partent de Pékin, malgré les grands froids, Ma apparaît soudain dans la plaine d'Urumqi et prépare un nouveau siège. Alors, Shang, le toupon, a peur, et en février, il télégraphie à ses amis moscovites pour demander de l'aide. Des troupeaux qui se trouvaient près de la frontière ne tardent pas à arriver et, au nombre d'un millier, les Russes rouges combattent aux côtés des Russes blancs. Ma les avait battus, mais il a compté sans éléments décisifs des guerres modernes. Quelques avions soviétiques et leurs bombes terrorisent les Dungan aux batailles de Daoguancheng et de Takun. Ma est obligé de s'enfuir au sud-ouest, vers Kashgar. Les événements de Kashgar. Au sud de la province, pendant ce temps, dès le début 1933, les trois émirs de Khotan avaient provoqué un fanatique soulèvement de musulmans et c'est à ce moment-là que notre amie Noreen avait dû s'enfuir au Tsedan. Conduit par Timur, ses Khotandis mal armés, unis à quelques Dungan et Turquis de Hodja Niaz, prennent Kashgar, défendu seulement par le Taotai chinois Ma Chaowu et quelques Kirdzig qui avaient armé. Yarkand, assiégé, tombe aussi et 2000 Chinois survivants sont exterminés jusqu'au dernier par les musulmans dans le désert malgré un sauf-conduit leur permettant de regagner Kashgar. Mais, chez les vainqueurs, une dispute s'élève entre Turquie et Dungan. Ces derniers partent pour s'installer à 6 km de Kashgar, dans la nouvelle ville où ils resteront 6 mois. Kashgar, en novembre 1933, devient la capitale d'une république du Turkestan oriental dont le président Sabi est soutenu par l'émir de Khotan. Mais elle ne dure que 2 mois, car le chef des Turquies, Hodja Niaz, s'en empare le 13 janvier 1934. Mais il s'est mis en service du gouvernement chinois d'Urumqi. Il lui est impossible de reconnaître cette république rebelle. En février, d'ailleurs, les Turquies doivent céder la ville aux Dungan et Ma Junyin, qui arrive après leur grande défaite, alors réunis aux Dungan qui occupaient encore la nouvelle ville, ils forcent Turquie et Kirdzig à s'enfuir dans les montagnes. C'est par l'un de ces fuyards que la femme du consul général d'Angleterre est blessée devant sa porte d'une manière inexplicable. Hodja Yans échappe et se réfugie à Urumqi, où il deviendra vice-gouverneur civil. 2 des 3 émirs de Khotan sont tués. Ma Junyin arrive lui-même à Kashgar le 13 avril. Écrasé, obligé d'abandonner son rêve de suprématie au Sinkan. Mais il ne semble pas abattu. Toute la chaîne des oasis sud, où il a des partisans, attend son bon vouloir. Il va s'y retrancher sans doute pour refaire son armée. En effet, en été, au moment de l'avance des troupes gouvernementales d'Urumqi, il fait afficher des proclamations à Kashgar. Les Dungan s'installeront à Khotan et laissent le reste du pays à Changchitse. Mais à la surprise générale, Ma nomme commandant en chef son général de cavalerie, Mahusan. Elle lui-même prend la route de Tashkent au Turkestan russe, se rendant de son plein gré chez l'ennemi de la veille, en compagnie du général Konstantinov, secrétaire du consulat soviétique à Kashgar. Un nouveau Lawrence. Depuis lors, et jusqu'au jour où j'écris, on ne sait rien de certain au sujet de Ma Junyin, dont le sort provoque les rumeurs les plus contradictoires. Ma serait mort en arrivant à Moscou. Ma est parti aux Indes y chercher de l'aide. Ma est à Pékin, disions-nous en février 35, au moment de quitter cette ville. Le consul d'Allemagne à Novosibirsk annonce en avril 1935 que Ma vient d'arriver à Almahata, au Kazakhstan. En 1936, Ma serait arrivé au Shanxi, en Chine, pour y faire de la propagande communiste. Comme pour le colonel Lawrence, une légende s'est déjà créée autour de lui. Selon les Japonais et leur journal Osaka Asahi, les Dungan se seraient révoltés à l'instigation des Soviets qui combinent un plan de mainmise sur le Turkestan chinois. À l'appui de ces dires, on peut rapporter une rumeur selon laquelle des fonctionnaires de Kashgar auraient dit que Ma est un agent de la 3e internationale recevant ses ordres de Moscou par la Mongolie extérieure. Dans les journaux soviétiques, les commentaires les plus variés accompagnent les nouvelles de la révolte. Ce sont les Japonais qui, préparant leur empire manchou-mongol au détriment de la Chine, ont inspiré Ma dans sa révolte contre les Chinois. Et c'est d'ailleurs au Japon, remarquent les Izvestia, que se trouve le siège de la Ligue panislamique, qui veut faire de l'Asie centrale une place forte de la politique anti-soviétique. Mais le journal du Parti communiste à Tashkent, la Pravda Vostoka, a un point de vue tout différent. Elle présente Ma comme le chef des paysans révoltés contre le système féodal militariste du Xinjiang. Cette opinion est juste, mais il faut ajouter que Ma travaille pour lui et non pour les paysans. Le journal ajoute qu'à Urumqi, les gardes blancs, racailles d'émigrés au nombre de 2000, mobilisés par les Chinois contre les révoltés de Ma, auraient déclaré en partant en guerre « Allons battre les bolcheviks ». Il est particulièrement intéressant de citer cet article lorsqu'on sait que 2 ans plus tard, en février 1934, et pour le compte de l'impérialisme chinois, les troupes rouges aidaient ces mêmes Russes émigrés à écraser le mouvement Turquie soi-disant paysan dirigé par Ma. Quant à l'Angleterre, enfin, elle est assurément impliquée aussi dans ces luttes incessantes. Et selon la Pravda du 15 août 1933, elle viserait la création d'un grand empire tibétain dont dépendraient le Xinjiang et le Sichuan. Et je me souviens que, lorsque j'étais à Pékin, un Allemand qui se disait bien informé m'affirmait que Lawrence d'Arabie secondait l'émir de Khotan, la Grande-Bretagne ayant le plus grand intérêt à voir une république musulmane s'établir sous son protectorat au nord du Tibet. Vous avez compris que c'est pas Lawrence, c'est Lawrence d'Arabie. Mais il n'est guère possible que Londres soutienne effectivement des opérations militaires dans un pays séparé des Indes par 1000 km de pistes vertigineuses à travers les Himalayas, soit 45 jours de voyage dans un pays qui n'offre pas de ravitaillement. C'est très drôle cette suite de noms incompréhensibles. J'espère que vous n'êtes pas trop perdus. D'ailleurs, à cause de la question tibétaine, l'Angleterre tient avant tout à ne pas rompre ses relations amicales qu'elle entretient avec la Chine. Enfin, même si Moscou était maître à Kashgar, les Indes ne seraient-elles pas affectées? La barrière de l'Himalaya arrête l'idée seule d'une invasion des Indes, et quant aux agents de propagande, il serait facile de les repérer puisqu'il leur faut utiliser l'un des 2 ou 3 sentiers qui seuls aboutissent au Cachemire. Mais il est vrai qu'il y a toujours eu des commerçants indiens au Xinjiang, et l'Angleterre, par son consul général à Kashgar, protège de son mieux les droits de ses quelques 5 ou 600 ressortissants, dont le commerce privé ne peut aujourd'hui que décliner devant les entreprises russes organisées par l'État et facilitées par la proximité de chemins de fer Turkzib. Cependant, on demande toujours sur le marché les mousselines et les beaux lainages anglais, quoique leur prix soit très élevé. En effet, les frais de route sont déjà difficiles à amortir et de plus, les autorités infligent des taxes et des délais sans fin aux caravanes indiennes en matière d'obstruction. L'Angleterre, décidée à protester énergiquement contre ces vexations, a réussi en automne 1935 le tour de force d'envoyer de Pékin une mission officielle en camion à Urumqi, la capitale aux deux visages, comme on pourrait la baptiser. Sir Eric Tashman y rencontra le consul anglais de Kashgar et tous deux furent reçus à merveille par des Chinois souriants qui affirmèrent que les traités de commerce seraient dorénavant observés. Mais rien n'a changé. Les conseillers et spécialistes soviétiques mènent les choses comme auparavant, selon les soviets, et ils peuvent être satisfaits du résultat, puisque grâce à leurs agents installés partout, ils contrôlent tout le commerce de la province. En plus des pelleteries et des produits de quelques mines du Nord, la Russie draine surtout ce qui lui fait défaut, toute la laine du Xinjiang, dont je voyais déjà les interminables caravanes à Frouzé, en 1932. Le bilan de fin d'année montre-t-il déjà un bénéfice pour les soviets? c'est ce que l'on peut se demander si l'on tient compte de cette coûteuse organisation à peine établie. Mais la chose a peu d'importance. Les entreprises d'État ont toujours des vues très lointaines. Un autre résultat sans doute de l'action de ces agents est que les Russes blancs, qui jadis prêtèrent main forte au gouverneur, se sont vus dans l'obligation de rougir par prudence. On murmure, on imprime que d'un jour à l'autre, le Xinjiang se détachera de la Chine et demandera à être admis dans l'Union des républiques socialistes soviétiques. Les indigènes ont tant souffert depuis 4 ans que quoi que l'on propose, ils sont prêts à croire que ce sera mieux que le passé. Ce coup de théâtre est fort possible. Il ferait une propagande mondiale pour Moscou, mais une propagande à double tranchant car les soviets sont loin de vouloir attirer l'attention générale sur leurs agissements en Asie centrale. Pour le moment, ils veulent rester amis avec tout le monde, avant tout de développer leur commerce à l'abri de toute ingérence ou concurrence, et cela jusqu'à Koh Tan, où leurs agents ont même réussi à parvenir. Je ne peux pas m'empêcher de penser que si Sven Hendy, à la tête de son expédition chinoise chargée par Nankin de créer une route automobile au Xinjiang, a été retenu à Urumqi, c'est que les autorités ont craint que sa mission ait ouvert une route directe avec Nankin. S'étant peu à peu rendu compte que le Suédois n'apportait aucune modification aux communications existantes, ils l'ont laissé partir en 1935. Que va-t-il se passer? Aucun traité de peine a été signé entre Urumqi et Koh Tan, cette dernière ne voulant dépendre que de Nankin. La rebelle Koh Tan est toujours la capitale d'une république Tungan armée jusqu'aux dents et qui se prétend bien meilleure sujette de Nankin que son ennemi, le gouvernement provincial, qui est en réalité aux ordres de Moscou. L'énigmatique Ma Junyin représente la seule inconnue capable de bouleverser l'état actuel des choses. Ne va-t-il pas surgir pour se mettre une fois de plus à la tête de ces hommes, comme on l'insinue? Il disposerait de 10 000 fusils et d'un nombre triple ou quadruple d'hommes armés d'épées, ce qui ne semble pas encore suffisant pour battre Cheng Shih-tse, ses 20 000 fusils et surtout ses 10 avions de provenance russe. Les soviets, pour contrebalancer une emprise possible des Anglais sur une république musulmane au Turkestan, auraient-ils encouragé Ma à s'emparer de Kashgar il y a 3 ans? Et se préparent-ils à la soutenir? À coup sûr, le consulat soviétique de Kashgar a su rapidement séduire Ma, peut-être en le tentant par la promesse de l'aider. Ma, parti comme un chef puissant, qui va discuter les conditions d'une alliance possible dans la capitale moscovite, est-il tombé dans un piège où il ronge son frein? Ou bien a-t-il abandonné ses rêves de conquête pour se vouer, qui sait, à la libération des classes opprimées en Asie? Tant que Ma est hors du Xinjiang, une paix relative peut continuer d'y régner, et pour le moment, c'est sans doute ce que cherchent les soviets afin que le pays se relève de ses ruines. Ma est comme un pion tenu en réserve sur l'échiquier asiatique. En ayant le chef des Dungan chez eux, les Russes contrôlent le sud du Xinjiang. Si Cheng Shih-tse cesse d'être docile, on lâchera peut-être contre lui la meute des Dungan, Ma en tête. Si le Japon s'annexe définitivement la Mongolie intérieure, Ma Jin, unie à Ma Pufang, pourrait établir un barrage musulman allant du Kensu à la Mongolie extérieure. Les Dungan sont une forme qui peut être utilisée, mais indépendants et sans avion, ils ne peuvent rien entreprendre que de désespérer. Alors après ce petit chapitre sur l'histoire et la géopolitique, chapitre 10, Koh Tan, capitale de la Tsungari. 2 jours plus tard, nous devions atteindre la grande oasis de Koh Tan, où nous espérions sans raison aucune voir un Européen, un missionnaire peut-être. Et Peter se demandait tout bas si une bouteille de whisky ne se trouverait pas par hasard sur son chemin. Au cours de cette étape, je me souviens d'une chevauchée exténuante le jour où Peter avait déclaré que nous ne nous arrêtions qu'à Loup. À 7 heures du soir, les 3 caravansérails de Bek Tograk, construits dans une région désertique, s'offrirent en vain à nous. Là, sans même descendre de cheval, je bus dans la calebasse d'un turki, rapportai du puits et nous continuâmes. À une région de Tamari succéda la désolation des dunes. Fatigué, obsédé par le désir de me coucher par terre, je me tenais éveillé en marchant la première dans l'obscurité presque absolue, m'appliquant à ne pas quitter les vagues traces marquées dans le sable. Malgré nos avances, aucune oasis ne venait s'interposer entre mon regard et les étoiles basses à l'horizon. Avions-nous perdu la piste ? Soudain, une cavalcade surgit de l'obscurité, braquant devant elle les faisceaux lumineux de lampes de poche. C'étaient des soldats en reconnaissance. Quelle aubaine pour eux qu'un étranger ait arrêté pour peu qu'on veuille faire du zèle. Tout étonné de découvrir Peter, ils ne m'ont pas vu et je m'éloigne insensiblement. Mais nous en serons quittes pour la peur, car ils veulent bien croire aux explications de Tusun et nous poursuivons notre marche hésitante. Soudain, près d'une flaque d'eau, un arbre se dresse. L'op est encore loin, mais voici une auberge solitaire. Et à force d'appeler, on ouvre la lourde porte barricadée. Comme il n'y a rien à manger ni pour nous, ni pour les chevaux, il ne reste qu'à dormir au plus vite. Le lendemain, sitôt arrivé à l'op, nous cherchons à nourrir notre caravane, mais les ânes reviennent en disant qu'il n'y a rien au marché, et Peter se rend chez le commandant de place pour réclamer « Tusun Haun ne nous aide aucune utilité ». Il nous inquiète même en nous parlant de la grande rivière qu'il faut traverser avant Kotan. Il dit que l'eau est dangereuse pour les ânes et qu'il faut attendre jusqu'au matin suivant, alors que le fleuve n'est pas encore enflé par la fonte des neiges. Mais arrivés sur la berge, nous voyons des bêtes et des gens qui, pour la plupart, passent à gué les trois bras du Yurunkash, la rivière du jade blanc. Les marchandises sont placées dans un bac ainsi que les femmes. Mais nous ne voulons pas attendre que ces bacs démarrent et nous allons passer au même endroit que les indigènes. À peine nos chevaux craintifs sont-ils engagés dans l'eau rapide que des cris s'élèvent pour nous mettre en garde. Et bon gré mal gré, nous traversons l'eau jaune que de robustes passeurs immergés jusqu'aux hanches qui mènent nos chevaux par la bride. Il me faut comprendre que l'eau cache des trous dangereux. Sur la rive gauche du fleuve, nous sommes reçus par le secrétaire de l'Aksakal de Kotan et un serviteur Sedig, celui-ci bizarrement vêtu d'un vieil imperméable en gabardine aux manches trop longues et de moltières effrangées. Sedig, dont les yeux brillent dans un visage parcheminé, est d'une intelligence supérieure. Il comprend du premier coup d'œil le chinois de Peter, tandis qu'entouré de quelques indigènes décorés d'un Union Jack sur l'épaule, nous buvons du thé au poste de police construit sur la berge. Enfin, sous le soleil écrasant, nous entrons à Kotan. Cette grande ville que je croyais, je ne sais pourquoi, être une ville musée comme Samarcande, me déçoit. Au bord de ruelles boueuses, stagne une eau puante, les boutiques sont noires de mouches, et surtout, je vois que la plupart des habitants, jusqu'aux jeunes filles, sont affligés de cloîtres énormes. À Kotan, je ne découvrirai plus tard que quelques grandes mosquées modernes. Pas le moindre vestige des temps passés. Au milieu de la grande rue, un drapeau anglais surmonte une porte en bois. Nous entrons dans une étroite cour couverte où des ballots s'élèvent jusqu'au toit. La maison de l'Aksakal sert d'entrepôt aux caravanes qui passent l'école de Karakoram. Portant des pantalons à la turque et des babouches aux pointes relevées, ces messieurs moustachus et rasés de près, des commerçants indiens, m'impressionnent beaucoup. En les voyant, je sens soudain que l'Hindoustan n'est plus un mythe. Seul l'Himalaya nous en sépare, et pour nous qui ne sommes pas encombrés d'auto-chenilles démontables, l'allusion à l'expédition Citroën, la croisière jaune, nous y arriverons facilement. Et voilà, il me reste seulement 30 secondes pour vous souhaiter une excellente après-midi, un excellent lundi. Je vous dis à demain pour une nouvelle fois partir à la découverte de Ella Maillard et des oasis interdites. Très bonne journée et à très vite sur Campus Grenoble 90.8.